À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonsoir, bonsoir Laurent. Bonsoir Serge, bonsoir. Qui est de nouveau là pour nous parler de la résistance en Italie au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on va passer assez vite sur l'actualité parce qu'on a un programme assez chargé. Dans l'actualité, il y a quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu, mais qui pour nous est intéressant parce qu'on a eu l'occasion d'en parler souvent dans ces émissions. On a même fait à une époque une action, une pétition qu'on avait envoyée à la mairie de Venise. C'est ces fameux bateaux de croisière gigantesques qui arrivent jusque quasiment à la place Saint-Marc, à 300 mètres près, hein, et qui restent la nuit dans la lagune pour que les passagers aillent visiter Venise. Donc ces bateaux qui sont d'un tonnage impressionnant et des paquebots qui commencent à effectivement poser beaucoup de problèmes à la ville et dont tous les élus ont du mal à se sortir. Il y a les pour, les contre, enfin, comme d'habitude. Eh bien là, visiblement, les choses avancent parce que le président du Conseil, Enrico Letta, que certains trouvent trop mou, mais qui, a priori, tient plutôt bien son rang, est allé rencontrer les élus vénitiens et il a promis il leur a déjà dit qu'il voulait trouver une solution et qu'il ne s'en irait pas de Venise sans que la solution soit trouvée. Et il a promis qu'à partir du 1er janvier 2014, c'est-à-dire demain, le trafic, il ferait tout pour que le trafic dans le bassin baisse de 20%. Et qu'à partir de novembre 2014, tous les bateaux qui font plus de 96 000 tonnes seront interdits. Carrément interdits. Donc c'est une mesure ambitieuse mais bien utile et espérons qu'il arrive à ses fins, ce qui sera une belle décision par rapport à l'ennui et aux problèmes que commencent à causer tous ces bateaux.
Un problème de vue puis problème sur le
problème
sol.
De vie, problème enfin, dans de l'eau, sol, dans l'eau, problème dans l'eau. Toujours pareil de rapport entre argent, tourisme, pollution, etc. Voilà, alors la dernière émission, pourquoi Serge aujourd'hui ? Donc, parce que Serge, la dernière émission, nous avait parlé de la résistance en Italie, avec l'appui, si j'ose dire,
du directeur du
musée de Turin.
Hein. Du musée de Turin, du musée de la résistance de Turin et de l'Institut de la résistance.
Voilà, et que tu avais interviewé sur place, Guido Valmio. Et tu l'avais interviewé sur la date de départ de la résistance, sur comment s'étaient organisés les mouvements. Et tu nous avais alléché en disant que la prochaine fois, c'est-à-dire aujourd'hui. Tu nous passerais une interview d'un résistant italien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fini l'émission précédente par une chanson « Oltre il ponte », qui était en fait un texte d'Italo Calvino, qui était un grand écrivain italien. Alors, Calvino était né en fait à Cuba, en 1923, mais de parents italiens, c'est simplement parce que son père se trouvait à travailler à Cuba à cette époque-là. Son père travaillait, il était de San Remo, donc il travaillait dans les fleurs, comme beaucoup de gens de San Remo, et sa maman était sarde. Donc voilà pourquoi il était né à Cuba. Et donc en 23, il est mort à Sienne en 85, mais il est resté 2 ans à peu près à Cuba, puis il est revenu en Italie dans la région d'origine, puis après il a eu un parcours assez long. Bon, il a fait ses études, il a été journaliste, écrivain, et pendant l'époque fasciste il était élevé au niveau de ses parents, l'ont toujours parler de façon très négative, on les comprend, du fascisme. Donc on peut dire qu'il était élevé dans une éducation complètement antifasciste. Et de Sanremo, il était parti faire ses études à Turin, et c'est là où il a commencé à avoir des sensibilités politiques et entrer dans des mouvements antifascistes. Et suite à l'assassinat de Cascione, qui était un partisan, il a rejoint avec son frère, qui s'appelait Floriano, la seconde division d'assaut partisane, donc, qui s'appelait Garibaldi. Et c'est là donc qu'il est entré en résistance. Et en 1945, il a participé à la bataille de Bayardo, qui était une des batailles connues en Italie, des batailles partisanes, auxquelles d'ailleurs il fait référence dans un ouvrage qu'il avait écrit en 1974, qui s'appelle « Ricordo di una battaglia », « Souvenir d'une bataille ». Mais en fait, son expérience partisane, il l'a décrit surtout dans son premier roman, qui date de 1947, qui s'appelle « Il sentiero dei nidi di ragno », le sentier des nids d'araignées. Et c'est de là qu'a été inspiré le fameux texte qui est devenu une chanson. D'accord. De Oltre il ponte, dont on a parlé l'autre fois, en finissant l'émission par ce titre. Et je parlais de ses études à Turin et de son entrée dans des mouvements politiques. C'est là aussi qu'il avait rencontré Cesare Pavese, qui était un grand poète, lui aussi écrivain italien. Alors lui, il a une histoire un petit peu différente, Pavese, parce que de 1932 à 1935, en fait, il était inscrit, lui, au Parti National Fasciste. Okay. Alors il dit que c'était parce qu'il y était poussé par les membres de sa famille. Et il avait même été choisi comme directeur d'une revue, Giovinezza e Libertà, qui était une revue culturelle, si on peut dire, d'un groupe antifasciste, tribune du groupe antifasciste, parce qu'il faisait partie du je ne sais pas si je me suis bien expliqué, de 32 à 35, il faisait partie du mouvement national fasciste, mais il disait qu'il était poussé par sa famille. Et en 34, par contre, il a pris la direction d'une revue culturelle qui, elle, était antifasciste, en fait. Hein. Donc, il a été activé. Du coup, il a été arrêté et il a été exclu du parti. Et c'est là qu'en 1939, il a écrit Le Bel Été, qui est de deux autres textes, Le Diable sur les collines et Entre femmes seules, qui faisait référence à toute cette époque. Alors, cette dualité de position de Cesare Pavese, en fait, on la trouvait à cette époque en Italie, être pro, être antifasciste, souvent, bon, le dernier qui avait parlé avait peut-être raison. Et un chanteur italien, Francesco De Gregori, en avait fait une chanson qui s'appelait « Le storie di ieri », qui continue à chanter d'ailleurs. Et c'est un titre qu'il a enregistré en 1974. Donc il traite dans sa chanson de l'idéologie fasciste sous forme de dialogue entre un père et son fils. Et donc la chanson porte sur l'idéologie que certains pouvaient avoir de ce mouvement, et puis bien sûr les retours de bâton et les désastres qu'ont occasionné ce mouvement fasciste. Et puis il traite en même temps, alors 1974 c'était aussi l'époque où dans la vie politique italienne, il y avait encore le MSI, qui maintenant est quasi inexistant, qui était dirigé par un certain Almirante, et qui était un mouvement d'extrême droite qui avait une certaine audience, qui n'avait pas énormément de votants, mais qui était quand même très connu. Et donc, sa chanson permettait aussi de traiter de l'actualité de l'époque, en disant évidemment qu'il fallait se méfier de ce type de mouvement. Et sa chanson avait été rechantée par beaucoup de chanteurs italiens, notamment par le Fabrizio De André, puis après par son fils Cristiano De André. Alors, la chanson commence par « Mon père avait un rêve commun qui était partagé par sa génération, mais beaucoup de morts l'ont démenti. Tous ces gens qui avaient compris, en fait. Et l'enfant joue dans la cour entre les cailloux. Non, il le tire, pardon, des cailloux dans le ciel et sur la mer. Et chaque fois qu'il frappe une étoile, et il ferme les yeux et il se met à rêver, il se met à voler, mais voler dans le sens de l'oiseau. Et puis, il parle dans sa chanson que maintenant, il y a encore une écriture noire sur le mur devant ma maison. Et il dit que le mouvement vaincra. Et il dit, les nouveaux chefs ont des visages sereins et des cravates qui ont couleur de leur chemise. Et en fait, ça, c'est quasi une nouvelle version, parce qu'il l'avait écrit d'abord, au lieu de nouveaux chefs, il avait nommé carrément le Almirante, ce chef de mouvement de l'époque. D'accord. Des années 70. Voilà. Alors, on va l'écouter, « Les storie d'ieri » par Francesco De Gregori.
Mio padre ha una storia comune, condivisa dalla sua generazione. La mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno smentito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare, ogni volta che colpisce una stella, chiude gli occhi e comincia a sognare, chiude gli occhi e comincia a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia, a giocare col nero perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano è una truffa. Ma mio padre è un ragazzo tranquillo, la mattina legge molti giornali, è convinto di avere delle idee, e suo figlio è una nave pirata, e suo figlio è una nave pirata. E anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti casa mia. Dice che il movimento vincerà, i nuovi capi hanno facce serene e cravatte intonate alla camicia. Ma il bambino nel cortile si è fermato, si è stancato di seguire aquiloni, si è seduto tra i ricordi vicini, i rumori lontani, guarda il muro e si guarda le mani, guarda il muro e si guarda le mani. Guarda il muro e si guarda le mani.
Voilà, alors dans sa chanson, il dit « Mussolini aussi a écrit des poésies. Les poètes, quelle drôle de créature, enfin créature maléfique. Chaque fois qu'il parle, c'est une tromperie, évidemment. »
Donc le poète n'a pas toujours raison.
Le poète n'a pas toujours raison, surtout quand il s'appelle Mussolini. Voilà, belle chanson.
Alors, cette semaine, ce mois-ci, on va entendre Cesare Alvasi, qui est un résistant que j'ai interviewé en septembre, en même temps que Guido Valmio, le directeur de l'Institut de la Résistance de Turin. Donc, Cesare Alvasi a très alerte. Il faut le voir glisser le doigt sur son smartphone pour me montrer une photo. Il a sa page Facebook, bon, qu'il alimente peut-être pas lui-même, mais c'est quelqu'un qui est très dynamique et qui a une mémoire, bien sûr, encore très vive. Donc, il va nous parler de son engagement dans la résistance et l'interview se termine par l'évocation d'une jeune fille, Marie-Thérèse Gorlier, et nous allons utiliser cette dernière interview pour parler du rôle des femmes dans la résistance. Alors, dans le témoignage de présentation de M. Alvasi, il évoque Piero Gobetti. Piero Gobetti est né en 1901 et est mort en 1926, donc à 25 ans. Il était journaliste, intellectuel, défenseur des idées de gauche. Et en s'inspirant de la Révolution russe, qui était toute jeune, vu la date, il prônait l'ouverture des postes de dirigeants politiques aux ouvriers. Ce serait presque de l'autogestion. Il a été fondateur et directeur de revues. Il a édité en 3 ans 150 ouvrages. Il en a écrit 8. Et tout ceci s'est rapidement terminé parce qu'il a été assassiné. Il a été sur les ordres de Mussolini. Donc, M. Alvasi, dans sa première interview, évoque Piero Gobetti.
Alors, je suis avec monsieur, j'ai la chance, je ne vais pas dire je suis, j'ai la chance d'être avec monsieur Cesare Alvasi, qui lui était partisan. Donc, après une vision historique, on va voir un peu ce qui passait dans les vallées piémontaises et dans quelle vallée
vous étiez. Dans les vallées de Suse et dans la vallée de Chisone et dans la ville de Turin.
Quel âge vous aviez en 1900, en septembre 1943?
17.
17 ans. Comment s'est fait votre engagement dans la résistance ?
Oh, c'était très simple, parce que j'avais l'opportunité de connaître Madame Ada Gobetti et son fils Paolo, qui étaient des antifascistes garantis, parce que Monsieur Gobetti a été tué pratiquement des fascistes l'année que je suis né. Et alors, l'orientation personnelle et l'orientation de ma famille comportaient un choix, et le choix d'être résistant.
Voilà, alors tu nous parlais, enfin, tu interviewais M. Alvasi, qui te parlait de Piero Gobetti, dont tu nous as rappelé qui il était, mais sa femme, Ada Gobetti, que mentionne Alvasi dans son interview. En fait, elle était militante antifasciste. Elle était née à Turin et morte d'ailleurs à Turin. Elle avait donc, elle s'appelait Ada Prospero en fait. Elle a épousé en 23 Piero Gobetti, qui était donc ce journaliste connu pour son opposition à Mussolini. Et elle était militante du Parti d'Action durant la guerre. Elle s'était engagée dans la résistance. Immédiatement après la guerre, elle avait occupé des fonctions d'adjointe au maire de Turin.
Ah, quand même.
Oui, oui. Et qui était dirigée alors par les communistes. Et elle avait promu, on peut dire, l'activité de l'Union des femmes italiennes. Elle était écrivain, journaliste, traductrice. Et elle avait notamment. C'est à elle qu'était due l'existence, la parution du journal qu'elle avait tenu dans la clandestinité, qui s'appelait Diario Partigiano, journal quotidien, donc partisan. Elle était début 45, elle était arrivée après avec d'autres résistants de Turin. Elle était venue en Isère, en fait, pour obtenir des armes et fournir des informations sur les troupes allemandes au Piémontais. Elle était donc, on le disait, militante de Parti Anti-Fasciste et militante du Parti d'Action, qui était héritier justement de ce fameux Giustizia Libertà dont on parlait tout à l'heure, qui avait donc des contacts, elle, avec des militaires alliés, mais aussi avec l'Union des femmes françaises et des autres maquisards italiens qui étaient repliés en Dauphiné. Voilà, qui était Ada Gobetti, qui a eu une influence, qui était la femme de Pierre.
La famille Gobetti était donc des amis, des parents. Et l'engagement de M. Alfassi ne s'est pas fait sur un coup de tête. Outre la fréquentation de la famille Gobetti, le contexte familial était un très bon humus.
Mon père, c'était président de la cour d'appel de Turin.
D'accord.
Et ma mère, c'était une famille d'origine française dans la vallée de Suse.
D'accord, donc une origine sociale assez élevée quand même.
Bourgeoise,
voilà. Et vous aviez des frères et sœurs ?
J'ai deux frères et une sœur.
Vos frères et sœurs, est-ce que, même au sein de la famille, tout le monde était du côté des partisans, ou alors
oui.
Est-ce que la famille
non.
était tiraillée
La famille étroite était très...
Donc le foyer, quoi.
Très,
le...
D'accord. Et la famille plus enlargée, c'est différent. Mon père, quand il m'accompagnait, il m'a dit une chose terrible. Il m'a dit, si tu vas rencontrer ton cousin qui est de l'autre partie, tu sais ce qu'il faut faire.
Ah oui, quand même.
C'est terrible. Mon père m'a accompagné. Il ne m'a pas dit, oh, bien attention, il ne faut pas te faire des bêtises. Non, il m'a dit, si j'avais ton âge, je serai avec toi.
Donc là, Monsieur Alfassi est dans un contexte vraiment très, très engagé, puisque son père n'hésite pas à lui dire « si tu croises ton cousin qui est de l'autre côté, n'hésite pas à le tuer ». Mmh. Et pour finir la présentation de Monsieur Alfassi, il nous parle de son groupe. Alors son groupe de résistants, dedans il emploie le mot « autonome ». Il faut préciser un petit peu ce que c'est. « Autonome », dans sa bouche, c'est « non lié au Parti communiste ».
Quel était le nom de votre groupe ?
Ah, c'était une formation autonome. C'était lié au roi autonome. Et une formation militaire. Et c'est très différent des formations du parti. Et nous avons des ravitaillements qui venaient directement de la maison royale. Quelques petits aides.
Donc c'est une... J'ignorais, c'est une résistance
du roi. Et nous avons des médailles avec Savoie.
Savoie.
Anticommuniste, ça.
J'avais un peu compris, ça.
Mais c'est... nous avons un très bon rapport entre toutes les formations.
Deux idées opposées peuvent se rejoindre contre une troisième.
Alors, en cherchant un petit peu, bien que je ne sois pas très calé en histoire, c'est vrai que Leclerc s'appelait Leclerc de Haute Cloque. Il y avait Destendorf, donc je pense aussi en France, ça devait être un peu la même chose. Et j'ai évoqué avec lui, mais je n'ai pas passé le morceau d'interview parce que c'était difficilement audible, l'action des Vaudois, puisqu'il était en Valquisonne. Et donc M. Alfassi m'avait dit que les Vaudois étaient beaucoup de résistants et son chef était Vaudois. C'est vrai qu'ils avaient été habitués à résister.
D'ailleurs, on va rester un peu dans cette région, parce qu'au cours de cette émission, je vous parlerai de trois auteurs en même temps qui ont eu une importance dans la résistance italienne. Et il y en a un qui est connu, c'est Primo Levi. Primo Levi, il était né, lui, à Turin, justement, en 19, et il est décédé à Turin en 87. Donc, lui, il était écrivain, et il était auteur de poésie, de romans. Et lui, donc, a été partisan, en fait, il était partisan antifasciste en 1943, donc, et il avait été capturé par les nazis, enfin les représentants donc des nazis, les fascistes, en février de l'année suivante, et il avait été déporté donc, au camp de concentration de Auschwitz. Après, il s'en était échappé et il était revenu en Italie, où là, il avait commencé à écrire différents romans autobiographiques, on va dire, dont le plus connu est Si c'est un homme, qui avait été écrit pour parler de ce séjour, entre guillemets, qu'il avait fait dans les camps. Alors, en fait, lui... Et il s'était réfugié, là, l'autre jour tu parlais du 8 septembre 1943, oui. Date de début de la résistance. Lui, il s'était réfugié auprès d'un noyau partisan qui agissait en Val d'Aoste, en fait. Donc il était venu dans la vallée d'Aoste. Et il avait donc fait son action de partisan pas loin du col de Joux. Et c'est là que il avait été ensuite arrêté, dans cette région, puisque le 13 décembre 1943, il a été arrêté par la milice fasciste du village de Almay, qui est vers Saint-Vincent du Col de Joux, hein, entre Saint-Vincent et Brusson. Et là, quand il a été interrogé, il n'a pas vraiment reconnu son côté partisan. Il ne le mettait pas en avant, même dans ses romans au départ, enfin après, dans tout ce qu'il a écrit plutôt. Mais il a préféré se déclarer juif, puisqu'il avait des ancêtres juifs. Alors évidemment, il a vite été d'abord transféré dans le camp de Fossoli et puis donc après il a été déporté. Si c'est un homme est un ouvrage poignant. On peut en dire quelques extraits. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que c'est celle qui a perdu son nom et ses cheveux et jusqu'à la force de se souvenir. Les yeux vides, le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Alors, il y a un chanteur italien, Gualtiero Bertelli, qu'on a passé plusieurs fois ici à Couleur FM, qu'on connaît bien, qui est venu ici souvent chanter pour nous dans la région, qui avait repris une chanson de Ivan Della Mea, auteur-compositeur italien, qui traite justement la chanson est tirée d'une lettre qu'avait écrite Chaim, un enfant de 14 ans juif, qui était détenu dans le camp de Pouskov et qui avait envoyé à ses parents, avant d'être tué, une lettre dont a été tirée cette chanson. Si le ciel était blanc et toutes les mers étaient noires d'encre, je ne saurais pas vous dire, mes amis, combien de tristesse j'ai au fond du cœur. Quelle est la plainte et la douleur qui est autour de moi? On s'éveille à l'aube pour nous éparpiller dans la forêt afin de couper le bois à moitié nu, avec les pieds tordus et en sang. Ils nous ont pris nos chaussures, nos manteaux et nous dormons par terre. Chaque nuit, comme un rite, il nous donne des coups de bâton. France rit et nous lance une carotte. Et nous, comme des larves affamées, on se contente unguedente l'ultima folia, c'est-à-dire qu'on se satisfait de la dernière partie. Et des enfants ont fui et ils nous ont recueillis dans un carré, enfin ils les ont mis dans un carré, un sur cinq a été fusillé, mais même si je n'étais pas un qui non a nommé questo campo, ça veut dire que je ne faisais pas partie de ceux qui ont été fusillés. Je n'ai aucun avenir dans ce camp. Ceci est l'adieu à vous, chers parents, frères et amis. Je vous salue, Chaim. Voilà. Donc, c'est une chanson d'Ivan de la Mer qui est reprise ici par Gualtiero Bertelli.
Se il cielo fosse bianco di carta. E tutti i mari neri d'inchiostro, non saprei dire a voi, miei cari, quanta tristezza ho in fondo al cuore. Qual è il pianto, qual è il dolore? Intorno a me si sveglia l'alba nel livore, di noi sparsi per la foresta a tagliar legna seminudi. Piedi torti e sanguinanti ci hanno preso scarpe e mantelli. Dormiamo in terra quasi ogni notte come un rito. Ci danno la sveglia a bastonate. Franz ride e lancia una carota. E noi, come larve affamate, ci si contende unghie e denti. L'ultima foglia. Fratelli ed amici, vi saluto e piango. Chaim.
Donc César Alvasi s'est engagé très jeune, à 17 ans, il nous l'a dit, Et il a été tout de suite dans l'action, assez rapidement.
Je me rappelle que dans le novembre de 1943, j'étais chez Madame Gobetti et je parlais avec un grand enthousiasme de la première formation de partisans militaires qui est en formation dans la vallée de Suse. Et après, j'ai eu la charge de repérer des armes dans les fortifications abandonnées. Et c'est là qu'une fois, je cherchais on ne sait pas comment ça s'appelle en français, les détonateurs,
oui.
Pour les bombes allemandes. Et j'ai cherché de monter des détonateurs et à 2500 mètres, il y a eu une explosion qui m'a ferri dans les mains. Et je me rappelle une déchande aval très lourde parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Et les copains qui étaient avec moi étaient très... Ils ne savaient pas si m'accompagner ou me donner un coup de grâce.
Voilà, la première action, donc, à 17 ans, il a perdu dans cette action quelques doigts. Donc ensuite, l'activité donc était assez classique, renseignement, sabotage. Monsieur Alvazi et son groupe étaient des clandestins à 100%, c'est-à-dire que ils étaient complètement cachés. Mais toutes ces actions assez dures n'occupaient pas, bien sûr, 100% de la journée. Et je me suis préoccupé de savoir de quoi étaient remplies les journées.
Dans la montagne, c'était une vie de montagne. Et je me rappelle que dans l'hiver, nous avons plusieurs fois dormi sur le rhododendron.
Ah oui.
Oui, c'était notre matelas.
À 2000 mètres.
Mais c'était 18 ans, 17 ans.
Donc les journées étaient occupées comment?
Oh, les journées, c'était très ennuyant. Parce que il faut passer le temps. C'était pas toujours des fusillades.
Oui, voilà, oui, c'était un peu ce que j'avais derrière la tête. Que faisait-il en dehors des actions?
Et je me rappelle que mes copains étaient toujours avec les cartes. Jouer les cartes.
Mais oui, parce que...
Non, moi pas.
Mais vous étiez obligé de vous déplacer quand même.
Oui. Nous avons tout les 2-3 jours, il faut rejoindre les commandes, il faut marcher pour 6-7 heures pour nous trouver et pour retourner. C'était des marches formidables.
Voilà, quelques jours avant d'interviewer César Alvazi, j'étais à Tours, c'est au pied de la montagne de la montée de Sestrières. Et j'ai vu une plaque qui était toute récente, assez neuve, qui était à la mémoire de Maria Teresa Gorlier. Et il était inscrit dessus qu'elle avait été inaugurée par César Alvazi.
Le même. D'accord.
Donc c'est quelqu'un qui est assez dynamique. Il m'a dit aussi qu'il avait été, il y a quelques temps, quelques mois, à l'enterrement d'un partisan à côté de Souze. Et c'était le seul partisan qui était là. Il n'y avait même aucune association de partisans. Donc j'ai demandé à César Alvazi...
Alors, qui était cette Marie... Alors, va nous le dire, si je comprends bien. D'accord.
Voilà, César Alvazi va nous en parler.
Pour finir, parlez-moi de Maria Teresa Gorlier.
Ah, je me regrette d'avoir pas porté ici un livre très important. Un livre qui s'appelle « Un prêtre in galera », un curé dans la prison. C'était Don Marabotto. Don Marabotto, c'était un partisan Un partisan qui a eu été pris, été torturé. Il disait que c'était notre Seigneur qui lui a donné la force de résister. Et sa collaboratrice, c'était Maria Teresa Gorlier. Maria Teresa Gorlier était née d'une famille française de Modane, de Paz, non semblable. Et j'ai eu l'occasion d'aller chez mes amis de Modane, et ils sont venus à ma maison, et ils sont venus aussi à Turas, c'est un village de l'autre vallée de Suse, où il y a une plaque pour Maria Teresa Gorlier.
Et tous les années. C'est là que j'ai vu son nom.
Vous avez vu moi qui mets les fleurs là?
Non, j'ai vu la plaque.
Et mes amis de Modane ont dit chapeau à M. Alvazzi qui a le souvenir de Maria Teresa.
Alors, qu'est-ce qu'elle
Maria
a fait?
Maria Teresa s'était prise par les fascistes et torturée. Il est à la fenêtre et il s'est jeté de la fenêtre. Et jeté de la fenêtre, les fascistes.
Ils l'ont 32, fini avec
32 coups de mitra.
Ils l'ont terminé la mitra. Oui.
Et dans le livre de Don Marabotto, il est raconté très bien toute l'histoire.
Donc Maria Teresa Gorlier, on va en dire un mot. Elle est née en 1921. C'était une staffetta. C'est-à-dire, comment on peut traduire ça, staffette,
oui, elle passait les...
Mot à mot, c'est un relais.
Oui, oui, c'est-à-dire
elle passait des messages.
Les messages.
Donc c'était une informatrice aussi.
Voire de la nourriture, peut-être, sans doute.
Et donc elle a été arrêtée à Cesena, qui est en bas de la montée de Sestrière, par les fascistes. Ils l'ont interrogée, ont tenté de la violer. Et donc elle a sauté par la fenêtre du deuxième étage. Elle est tombée dans la cour de la prison. Et c'est là qu'ils l'ont donc achevé avec 32, vous ont dû relever, 32 impacts de balles sur son corps.
Alors, on parlait tout à l'heure d'auteur. Il y a un autre auteur italien, Mario Rigoni Stern, qui est souvent venu d'ailleurs dans notre région, qui était né, lui, en 21 à Asiago. Là, on passe plutôt en Vénétie comme région. Il y est d'ailleurs mort en juin 2008. Alors lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait été incorporé dans un régiment de chasseurs alpins. Et il fut après fait prisonnier par les Allemands juste après la signature de l'armistice, là, donc en septembre 1943. Et il a été transféré en Prusse orientale. Il a réussi à s'évader. Il a rejoint Asiago, donc son pays de naissance, en avril 1945. Et il était employé du cadastre. Il s'est consacré à l'écriture un peu plus tard quand même, hein, dans les années 70. Et son roman le plus connu, Le sergent dans la neige, vous le trouvez d'ailleurs, il existe en français, en collection, c'est Il sergente nella neve, mais Le sergent dans la neige, vous le trouvez en collection 18 d'ailleurs. Donc il raconte là les soldats italiens qui sont perdus en Russie au moment où les troupes allemandes et italiennes se retirent. C'est un grand auteur, Mario Rigoni Stern, et il a beaucoup écrit sur des souvenirs, hein, c'est beaucoup de souvenirs de cette guerre mondiale. Cette deuxième guerre mondiale, voilà. C'est Primo Levi qui lui disait de lui que c'était un auteur qui était tel qu'on trouverait rarement une cohérence aussi importante entre l'homme qui vit et l'homme qui écrit, avec une densité d'écriture aussi forte. Voilà, alors il y a un chanteur italien qu'on a entendu tout à l'heure, Francesco De Gregori, qui a écrit un autre titre qui s'appelle Viva l'Italia, dont à une époque on parlait peut-être pour être l'hymne italien. Enfin, mais il l'a écrit en 79, c'est-à-dire beaucoup plus tard que l'hymne italien qui est toujours celui de Mameli. Mais c'est une forme de discussion autour de qu'est-ce qu'il faut choisir comme hymne. Alors lui, en fait, il débute sa chanson en disant l'Italia liberata. En fait, il fait référence à cette Italie libérée du fascisme. Et cette chanson parle donc de l'Italie en général au niveau historique, de ses bons, de ses mauvais côtés de l'histoire italienne, et notamment de la période effectivement noire de ce fascisme qui avait duré une vingtaine d'années. Et il fait donc l'éloge de la résistance italienne de cette Seconde Guerre mondiale, mais aussi de toute forme de résistance, puisqu'il parle aussi de la réaction positive qu'il y avait eu après le fameux attentat. Vous entendrez qu'il parle de 12 décembre, et c'est le 12 décembre 69, au Piazza Fontana à Milan, où il y avait une bombe qui avait fait 17 morts, si je me souviens bien, et de nombreux blessés, et où on sentait, c'était la fameuse époque noire aussi de l'Italie, où on avait peur que, comme tout à l'heure dans la chanson précédente, il y ait des mouvements d'extrême droite qui reviennent. Donc c'est une forme de résistance sous toutes les formes, cette chanson Viva l'Italia, qui donne aussi tous les pendants de l'Italie.
Il y a eu l'attentat de Bologne en 80.
Voilà, plus tard, voilà. Donc celle-là, par contre, a été écrite en 1979, Viva l'Italia, Francesco De Gregori, qui la chante là avec Lucio Dalla, un autre grand chanteur italien disparu il y a peu. Donc Lucio Dalla et Francesco De Gregori, Viva l'Italia.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.
Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata, l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, ma l'Italia tutta intera.
Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia povera come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Donc on va terminer en parlant du rôle des femmes dans la résistance en Italie. Donc j'imagine que ça devait être pareil en France. Tout le monde connaît en France Lucie Aubrac, mais je pense qu'il devait y avoir bien d'autres femmes qui n'ont pas eu un rôle comme elle, mais dont l'action était tout aussi déterminante. Alors en Italie, après la guerre, pour des raisons administratives, on a défini ce qu'était un partisan. Il fallait bien le définir pour donner des médailles, des choses comme ça. Donc être un partisan, c'était avoir porté les armes au moins 3 mois et avoir participé à au moins 3 actions de guerre, style sabotage par exemple. Donc on voit que cette définition exclut pratiquement, de par sa rédaction, les femmes. Les hommes étaient clandestins, mais les femmes s'occupaient de l'intendance. Et donc, elles ne pouvaient pas rentrer dans cette définition. Néanmoins, il y a eu 623 femmes fusillées, 2750 déportées, 4653 arrêtées. Donc, on peut penser que, vu ces chiffres, elles ont eu un rôle. Alors, officiellement, elles n'ont donc pas participé, puisqu'elles ne rentrent pas dans la définition. Et pour ne pas les exclure de cette reconnaissance, on a dit qu'elles ont contribué. Donc le terme contient déjà là un sens inférieur, quoi. Elles ont contribué.
Oui, c'est pas elles qui ont une action principale.
Voilà. Alors, dans les biographies que j'ai pu lire,
c'est ce qu'on dit, hein, c'est pas ce qui est vrai.
Voilà, on rencontre souvent le mot de staffette, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est une staffette, c'est une, au sens propre, c'est un relais et c'est une...
Ce que faisait notamment, on en avait parlé lors d'une émission, le Gino Bartali,
voilà,
qui
oui.
est grand coureur cycliste, qui passait ou des messages,
passait des messages
de la nourriture dans son vélo,
dans son cadre,
dans son cadre de vélo.
Donc les femmes, en plus de ce rôle de liaison, s'occupaient de cacher les partisans, de leur procurer des vêtements et de la nourriture. Et quand on dit trouver des vêtements, c'est pas juste trouver un pantalon. Par exemple, on a vu la dernière fois que beaucoup de militaires avaient quitté l'armée en déroute à partir de juillet 43. Il faut les habiller en civil. Ces gens-là errent en habits militaires. Et on a, par exemple, à Turin, Chiara Cerdi, qui organise carrément un atelier de confection. Donc, bien sûr, elle n'a pas eu 3 actions militaires, mais enfin, elle a organisé son atelier de confection clandestin. Autre exemple, dans les Abruzzes à Sul Mona, où il y avait un camp de prisonniers italiens aux mains des Allemands. Donc, ils s'évadaient de temps en temps des Italiens. Et ils allaient tous chez Anita Santamaroni pour trouver repas et aussi des vêtements civils. Donc là, derrière, il y a toute une organisation. Bien sûr, deux facteurs, on peut dire, empêchent les femmes de rentrer dans la résistance administrative. Ça peut être le rapport à la violence et puis la capacité d'utiliser les armes. Souvent, ce sont des choses lourdes, avec du recul. Enfin, il faut une certaine force. Enfin, moi, je n'ai jamais fait, mais c'est ce que je pense. Donc, elles ont eu un rôle, de par la définition, elles sont en retrait. Par contre, leur rôle a été plein et entier. Un artisan ne peut pas se déplacer avec des habits militaires s'il vient fuir de l'armée et aussi il doit manger et être informé. Une exception, enfin, parmi d'autres, une dame qui s'appelle Elsa Oliva dans le Val d'Ossola, qui disait ne pas venir rejoindre la résistance pour chercher un amoureux, mais elle voulait des armes, sinon elle n'y allait pas.
Ah bon ?
Voilà. Mais enfin, généralement, elle a dû rentrer dans la définition. Alors, au hasard des témoignages que j'ai pu rencontrer, il y a aussi Gabriella degli Esposti, qui avait 32 ans, paysanne, communiste, de Castelfranco Emilia, mère de 2 enfants, enceinte, organisatrice de manifestations pour avoir du pain. Donc, c'est quand même des choses assez risquées. Qui a été arrêté, torturé, fusillé après avoir été éventré. Alors, des historiens, et plutôt des historiennes, ont pensé que la définition administrative de la femme résistance, de la femme résistante, pourrait avoir une sorte de référence non pas à l'armée, mais à une résistance civile, de manière à être traitée à égalité, puisque les femmes, bien sûr, se trouvant majoritairement dans la deuxième partie.
Voilà, bon, mais merci pour toutes ces interviews et précisions, Serge. On aurait pu développer aussi par les antifascistes et résistants italiens en Isère, puisqu'ils ont eu une importance assez prononcée. Et d'ailleurs, le musée de la résistance et de la déportation de Grenoble en avait fait une exposition complète. Je pense d'ailleurs qu'ils avaient édité un bouquin à l'époque. Je pense qu'en téléphonant au musée de la Résistance ou en les contactant, vous pouvez obtenir ce bouquin qui était assez précis, assez fouillé et qui parle de différents aspects de cette résistance des Italiens en Isère. Bon, l'exil antifasciste, évidemment, les conditions d'existence des Italiens en France, quand il y avait le régime de Vichy, les résistants italiens pendant l'occupation italienne dans l'Isère, ce qui n'était quand même pas une mince affaire.
Oui, ça devait être difficile à vivre.
L'exil antifasciste, les retours en Italie, leur importance dans la résistance suivant les zones de l'Isère. Et on parle notamment de Joseph Fracassetti, qui est devenu Fracassetti avec un Y, donc ici en Nord-Isère, hein, qui eux, dont les parents avaient émigré en Italie à la fin du 19e. Et il avait émigré dans la région de la Mure, où il était, comme par hasard, mineur. Et par contre, Fracassetti Joseph, lui, il était né en Haute-Savoie. Et c'est un de ceux qui avait été l'initiateur de la résistance à Bourgoin, hein, en compagnie de Marcel Petit et de Claude Chary. Et il était chef militaire du secteur 7. Et après la libération, parraine contre le fascisme et Mussolini, comme beaucoup d'Italiens, il avait francisé son nom en Y.
Ah oui, d'accord.
Alors, il y avait d'un côté, il y avait Mussolini qui faisait tous les noms italiens qui étaient en ER, AN, ON, il voulait les italianiser, paraît-il, en IA, etc. Et puis certains résistants italiens, ou certains antifascistes, c'est le contraire, ce qui paraît bon. Et un peu logique. Mais il y a d'ailleurs eu beaucoup de résistants d'origine italienne qui sont morts dans notre région, fusillés par les nazis. Voilà, on va finir cette émission par une chanson. Donc une chanson, I ribelli della montagna, Siamo i ribelli della montagna, qui est connue aussi sous un autre nom, Dalle belle città. Donc c'est un chant partisan qui a été, semble-t-il, composé en mars 1944. On l'attribue à des soldats de la 3e brigade d'assaut qui opéraient sur le mont Torbio dans la province d'Alexandrie. Et donc ces deux soldats seraient Emilio Casalini, qu'on appelait Cini, et qui était l'auteur donc des paroles, et Angelo Rossi, qu'on surnommait Lanfranco, qui était un jeune partisan qui, lui, était étudiant, qui faisait des études de musique, et dont lui aurait composé la musique de ce morceau. Il les aurait composés pendant leur tour de garde, lorsqu'ils prenaient donc leur tour de garde, quand ils étaient sur ce fameux Mont Torbio. Donc on va l'entendre, cette chanson, comme la dernière fois, la dernière chanson de l'émission, chantée là par Modena City Ramblers, qui est un groupe de Reggio Emilia et qui est extrait de leur album Appunti Partigiani, Rendez-vous Partisans. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Merci Serge pour ta collaboration et merci Laurent.
Au revoir.
Sono partigiano, perciò odio chi non partecipa, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Athos.
Dalle belle città da te nemico, fu dolci mondi su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenir. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenir.